Allô, allô, ici Ciné Herri.
En 1971, sort aux États-Unis le film Johnny Got His Gun, Johnny s'en va en guerre, de l'écrivain, scénariste et réalisateur américain Dalton Trumbo. Il s'agit d'une adaptation de son roman éponyme qu'il avait publié en 1939, au tout début de la Deuxième Guerre mondiale. Cet ouvrage a connu une très grande notoriété et a vite été épuisé. Il s'agit d'une œuvre clairement antimilitariste, qui se présente comme un réquisitoire terrible contre la Grande Guerre en particulier et toutes les guerres en général. Il en est de même du film réalisé par l'écrivain lui-même, plus de 30 années après. Nous sommes toujours en présence d'un brûlot antimilitariste, d'un film coup de poing, souvent insoutenable, tant il est émotionnellement éprouvant. Interprété par Timothy Bottoms dans le rôle titre, Johnny s'en va en guerre raconte l'histoire de Joey Bonham, un jeune soldat américain plein d'enthousiasme qui s'est engagé pour partir sur le front durant la Première Guerre mondiale. Si la patrie vous appelle, il faut partir, il le faut, dit-il à sa fiancée, après avoir refusé de rester au pays. Il répond ainsi à l'affiche de l'oncle Sam, I want you for US Army, réalisé par James Montgomery Flagg pendant la Grande Guerre. Lorsque le film débute, nous voyons Johnny se réveiller dans un lit d'hôpital. Il prend progressivement conscience qu'il n'est pas seulement blessé, mais surtout amputé des quatre membres, quasi sourd, aveugle, muet et sous respirateur artificiel, seul au monde, coupé du reste de l'humanité. Dalton Trumbo réussit à susciter chez le spectateur une empathie avec ce jeune homme totalement détruit, réduit à l'état de quasi déchet. Le réalisateur sait nous faire vivre l'enfermement oppressant vécu par Johnny. Il sait nous transmettre la torture mentale qu'il endure au jour le jour, torture qu'il ne peut même pas communiquer. La seule raison de prolonger son existence, c'est d'enseigner aux autres à soigner, dit de lui avec désinvolture un médecin en l'examinant comme un objet de laboratoire, comme un pauvre cobaye. Un médecin plus soucieux des progrès de la médecine et de la chirurgie que de la situation désespérée de son patient. Comment ne pas songer ici à la métamorphose de Kafka, où l'on voit Gregor Zamza devenir un fardeau gênant qu'il conviendrait de faire disparaître? Contrairement à la démarche adoptée par Joseph Losey dans King and Country, qui consistait à imposer aux spectateurs des scènes d'une réalité crue, souvent insoutenable, Trumbo reste pour sa part en permanence réservé et elliptique sur le plan visuel. Avec Johnny Got His Gun, il n'y a rien en effet de choquant et de spectaculaire qui ne soit porté à l'écran. Rien de visuellement douloureux. Bien au contraire, la guerre est quasiment absente. Elle n'est présente qu'à travers le corps dévasté de ce jeune soldat. Le décor est dépouillé, réduit à minima, et nous voyons essentiellement une chambre d'hôpital avec les restes d'un survivant. Caché sous un drap, avec son visage encastré dans un boîtier, il est cerné par un enchevêtrement de tuyaux. Sa destruction est donc suggérée, car le réalisateur travaille avant tout sur l'imaginaire des spectateurs. En fait, l'horreur absolue dans laquelle se trouve Johnny est rendue ici par le procédé de la narration intérieure. Plus précisément, c'est du contraste existant entre la parole intérieure profondément humaine et l'image froide, et clinique de l'hôpital que naît notre émotion. Trumbo a adopté le parti pris suivant. Les scènes filmées en noir et blanc renvoient à la réalité, l'hôpital par exemple, et celles en couleur témoignent des réminiscences et des rêves de Johnny. Johnny se remémore sa jeunesse, ses ultimes moments de bonheur avant son départ pour la Grande Guerre. Il analyse aussi sa condition d'infirme. « Je survis comme un morceau de viande. Au fond de moi, je crie, je hurle, mais personne ne fait attention. Je gémis comme une bête blessée. Si j'avais des bras, je me tuerais. Des jambes, je fuirais. » Lorsqu'il réussit enfin à communiquer avec les militaires qui l'entourent, grâce à des mouvements de tête en morse, il dit « Je veux sortir, je veux être avec des gens, je veux qu'on m'annonce comme le seul morceau de viande qui parle. Je veux sortir pour que les gens puissent voir ce que je suis devenu. Mettez-moi dans un spectacle de carnaval. » Puis, devant le refus catégorique qui lui est opposé, il ne cesse alors de répéter « Si vous ne laissez pas les gens me voir, alors tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi. » Si l'institution militaire le cache, l'enferme à clé, le met au secret et au rebut, elle refuse en revanche obstinément de l'euthanasier et se lance au contraire dans une politique d'acharnement thérapeutique et d'essais cliniques. À travers ce jeune homme et ses souffrances indicibles, l'État ne cesse de rappeler qu'il décide non seulement de la vie de ses soldats, mais aussi de leur mort. En conséquence, il est interdit à Johnny de disposer de son corps anéanti. SOS, SOS, au secours, au secours. C'est sur cet appel intérieur désespéré et réitéré que s'achève le film, tandis qu'en contrepoint s'affiche à l'écran le nombre de 80 millions de morts et de 150 000 disparus et blessés. Données chiffrées, suivies de la devise « Il est doux et beau de mourir pour la patrie. » Trumbo refuse ainsi toute accoutumance à la guerre et tout endurcissement émotionnel. C'est aussi une manière de dire que ce discours pro-patria, tenu par tous les représentants de l'État aux familles qui ont perdu leurs proches au front, n'est pas légitime. Ces soldats n'ont pas donné de sens supérieur à leur vie. Ils ont simplement participé à une boucherie mondiale qui les a broyés. Certes, depuis la Grande Guerre, nous savons bien que les violences interétatiques se caractérisent par de nouvelles formes de destructivité, plus massives, plus extrêmes et plus intensives que jamais. Nous sommes parfaitement avertis de ce tournant historique dû à l'industrialisation de la production d'armement. Nous savons bien qu'il a provoqué des dévastations matérielles et des pertes humaines sans égale. Mais pour Trumbo, l'on ne saurait se limiter à cette prise de conscience, somme toute abstraite, qui consiste simplement à faire état de dizaines de millions de morts et à le déplorer. L'on ne saurait en rester à cette échelle macro-politique. Son objectif consiste bien plutôt à nous montrer que derrière ces données chiffrées effrayantes, il existe une réalité concrète qu'il faut regarder et avoir le courage de ressentir émotionnellement. C'est pourquoi il nous donne à voir comment les bombardements et les pilonnages d'artillerie ont massacré un individu à qui on a dénié ensuite le droit de mourir. Dalton Trumbo signe ainsi un film pacifiste et antimilitariste, politiquement très engagé, comme le fut toute sa vie. Rappelons en effet, pour mémoire, qu'il a été l'un des rares professionnels du cinéma à refuser de témoigner en 1947 devant la Chambre du Comité des activités anti-américaines, alors qu'une commission d'enquête était chargée d'examiner de prétendues influences communistes dans l'industrie cinématographique. Il a fait partie d'un groupe surnommé les 10 d'Hollywood. Pour justifier leur refus de répondre à la question « Êtes-vous ou avez-vous été membre du Parti communiste américain ?», les 10 ont alors invoqué à l'époque le premier amendement relatif à la liberté d'expression et de réunion. Mais la commission, quant à elle, a estimé qu'ils outrageaient le Congrès, et Trumbo a pour sa part été condamné à une peine de prison qu'il effectua en 1950 pendant près d'une année. Victime du maccartisme, inscrit sur une liste noire, il ne lui était plus permis de travailler aux États-Unis dans le cinéma. Il a donc dû s'exiler au Mexique, tout en continuant de collaborer dans son pays sous divers pseudonymes, remportant même à deux reprises l'Oscar de la meilleure histoire originale en 54 et 57. Mais il faudra finalement attendre 1960 pour qu'il sorte officiellement de la liste noire, avec son nom crédité comme scénariste pour le film d'Otto Preminger « Exodus », et, à la demande expresse de Kirk Douglas, de voir sa collaboration créditée pour Spartacus. Quelques années plus tard, en 1971, il réalisera donc Johnny Got His Gun, le seul et unique film qu'il ait tourné, qui sera salué par Renoir et Buñuel et obtiendra le Grand Prix du jury à Cannes. Les États-Unis étaient alors en pleine guerre du Vietnam, et les mouvements pacifistes et antimilitaristes firent de cette œuvre leur étendard.